Nous, sur le Barboteur, on boit de la bière. Et on préfère la qualité à la quantité.
Alors, pour votre santé, buvez de l'alcool avec modération.
Salut, c'est Marco.
Salut, c'est Nico.
Barboteur.
Le podcast qui ne pense pas que du vent.
Il est précisément l'heure qu'il est chez vous et vous écoutez The Beer News. Ici Marco et Nico sur The Barboteur Podcast.
Transparence.
En mai 2020, un article de loi avait été voté à l'Assemblée nationale de notre cher pays hexagonal stipulant que le nom et l'adresse du producteur de bière devaient être indiqués sur l'étiquette. La Commission européenne vient de donner un avis défavorable. Personne n'est dupe. C'est une décision qui vise à protéger le consommateur, c'est certain. Comment qu'on fait ?
La brasserie qui vient de fêter ses 10 ans, aussi connue sous le nom de La Débauche, vient de publier 3 nouvelles recettes, issues d'un vote sur Instagram, redimensionné pour 20 litres et donc adapté au Brassam. Au programme, la Cindy Bunny, donc une triple belge, la Niña Blanca, une blanche au citron, et enfin, la Frankie, une Irish Stout infusée au café et au copeaux de bois. Le tout est à retrouver sur le site de la brasserie, au format PDF. Le Bon Coin.
La brasserie lyonnaise Ninkasi met en vente son ancienne installation située dans l'ancien site de teinturerie de la ville de Tarare, proche de Lyon. Cause double emploi. Brassam s'abstenir. Les rois du hamburger.
La brasserie qui nous tient tant à cœur, non c'est faux, Cronenbourg, vient de réaliser une conférence de presse pour nous annoncer, au Beer Geek que nous sommes, son renommage en brasserie Cronenbourg. Et sinon, ça se prononce aussi BK. Vous prendrez bien une BK avec votre BK. Erratum, dépendaison de crémaillère.
Et nous vous avions annoncé que le shop de Grainfather était enfin réouvert, car ils avaient enfin déménagé dans leur nouveau hangar de stockage. Eh bien, c'était faux. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Fermeture.
Le restaurant slash barcraft du 11e arrondissement de Paris, La Fine Mousse, ferme ses portes fin octobre pour laisser place à de nouvelles aventures. Et avec ça, c'est 30 becs qui disparaissent d'un coup de la capitale. Bonne continuation dans vos nouveaux projets qu'on espère un peu brassicole quand même. Calendrier de l'Avent.
Comme chaque année, le mois de novembre est propice aux jours fériés. Quoique pas tant que ça cette année. Mais surtout au calendrier de l'Avent. Sur le Barboteur, vous le savez, on est là pour les bons tuyaux. Et cette année, notre choix s'est porté sur le calendrier qui vient pas du supermarché et qui t'oblige pas à boire une bière quotidiennement. Pour ça, c'est très simple.
Va chez ton caviste ou ta brasserie préférée et laisse-toi guider.
C'est osé.
La société bordelaise W Platform SAS, comme on dit cocorico déjà en bordelais, va présenter au Salon du Brasseur de Nancy une solution technologique permettant de récupérer le CO2 issu de la fermentation pour le réutiliser dans la brasserie. Ça s'appelle la CO2 Box. Pour l'ingénierie, on veut bien leur mettre la note maximale, mais pour le nom, bah c'est non. On n'arrête pas le progrès.
En marge du Salon du Brasseur 2023 de Nancy, avait lieu le Brassinov, un concours destiné à promouvoir et récompenser des innovations dans le milieu de la brasserie. Sur 12 inventions enregistrées, 4 ont été récompensées, dont un micro-distillateur par micro-ondes pour extraire les huiles essentielles de houblon, une rinceuse remplisseuse boucheuse monobloc pour bouteilles en verre en PET et canette qui permet un changement rapide d'un contenant à l'autre, un gingerbread cookie infusion malt, soit un malt infusé avec différentes plantes et épices, ou enfin un embout qui permet l'aération des flexibles tout en empêchant un corps étranger d'y rentrer. De belles idées, Jenny. du Ripoux au Royaume de la Brique.
C'est via le compte Instagram Balance ta Startup que nous venons de prendre connaissance d'une dizaine de témoignages dénonçant un management qui dépasse outrageusement les limites et des faits de harcèlement et de comportement sexiste dans la chaîne de taproom Brickhouse. Hey Brickhouse, tu crois vraiment qu'ignorer le problème, ça va le faire disparaître ? Tout notre soutien va évidemment aux victimes qui ont eu le courage de témoigner. Recyclage.
Les informations contradictoires ne cessent d'arriver et on ne sait plus à quel sein se vouer. Qui de la canette, de la bouteille ou du contenant PET est le plus écologique ? Ce sujet, certes complexe, dépend bien évidemment de plein de facteurs. Où a été fabriqué votre contenant ? Avec des matériaux recyclés ou non ? Avez-vous de quoi recycler pas trop loin de chez vous ? Ou mieux, pour le verre, est-il consigné ? Pour nous déjà, moyen de pétrole, mieux c'est. Finalement, le plus pertinent est sûrement de recycler en choisissant la poubelle adaptée et ou d'utiliser le concept de consigne s'il vous est proposé. Et un jour, aisant de tout lobby, peut-être saurons-nous la vérité.
Every day, it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. It's a getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey.
Salut Nico, comment ça va?
La baisse, hamdoulilah, et t'as la baisse?
Eh ben ça va bien, merci. Enfin, bon, loin de moi quand même l'idée de te parler du mauvais temps, mais je crois que l'automne est là. Et malheureusement, moi, je crains l'hiver, hein, en atteste le petit bonbon que j'ai dans la bouche pour essayer de me calmer ma petite douleur à la gorge. La bonne nouvelle, c'est que ça va me permettre, et comme avec beaucoup d'autres brassames, de remettre en service le fourquet, de passer le reste des grains de l'année dernière dans un truc abject, que les gens appellent régulièrement une pierre de Noël, et puis de nettoyer le matos qui a été jeté dans le coin du garage. Bon, et toi, quoi de neuf de ton côté ?
Eh ben, de mon côté, ce mois-ci, pas beaucoup de news. On est parti fêter les 8 ans de Basque-Land, mais ça, tu le sais déjà, car tu as écouté notre dernier épisode bonus disponible sur Apple Podcast ou sur notre page Ko-fi. J'ai enfuté et mis sous pression ma saison, et j'ai embouteillé tout ce que je n'ai pas pu enfuter. Ça me donne 5 bouteilles de plus. J'ai souffert d'une plutôt grosse frustration à la défaite de l'équipe de France de rugby, et je n'irai pas plus en avant sur ce sujet. Et j'ai hâte de goûter ma bière et d'en refaire une. Mais il faut que je rachète des joints pour mon GF30 Dual Valve Tap. Tu sais, les robinets qui sont en dessous de mon fermenteur. Parce qu'en le nettoyant, j'ai vu qu'il y avait 2 des 3 joints qui étaient présents et qui étaient cassés. Et il n'y a plus de stock nulle part où j'achète d'habitude. Ah, mon petit doigt me dit que sur Rolling Beers, il y a du stock et donc je vais pouvoir en racheter. J'ai hâte aussi de pouvoir augmenter ma production et les équipements que j'ai, mais je pense que mes futurs investissements ne pourront se faire que l'année prochaine. Et j'ai quand même bu. Le week-end dernier, une petite Imperial Pastry Stout de chez Amundsen Brewery. C'est une stout à 11,5 avec du chocolat, du café et des arômes de vanille dedans. Pas aussi gourmande que ce qu'on a pu goûter au festival de Basque-Land. Elle n'était pas mauvaise, mais manquait un peu de rondeur pour moi.
Ouais, et comme d'habitude, leur canette est magnifique, elle est juste derrière nous.
Ah oui,
vraiment sympa.
Exactement. Oh, et ce mois-ci, j'ai aussi revu des anciens collègues du boulot d'une ancienne mission que j'ai faite. Et parmi les personnes, il y en a une qui m'a dit qu'elle écoutait toujours notre podcast assidûment. Et donc, ça m'a fait bien plaisir. Merci à toi, Isabelle, d'être fidèle au podcast. Et j'ai kickstarté le prochain jeu de l'univers de The Witcher, jeu de société. Ouais, ok, ça n'a aucun rapport avec la bière. Quoique, dans le jeu vidéo, ils en boivent de la bière. Et j'aime bien l'ambiance des tavernes. C'est bon, tu as lu cette news ?
Ouais, enfin tout ça ne nous dit pas quand est-ce qu'on va enfin pouvoir goûter cette saison.
Et ça ne saurait tarder. Mon calendrier me dit quelques jours après la sortie de cet épisode. Il faudra que tu repasses. J'ai comme l'impression d'ailleurs que ça pourrait faire l'objet d'un épisode bonus, ce petit brassage et cette dégustation. Oh mais je t'ai pas demandé. Alors ton mois ?
Oh, moi tu sais, rien d'incroyable. Hein. On a fait un petit week-end au Pays Basque sur le thème de la bière, de la bouffe et des copains. Pour se remettre des travaux qui ont enfin recommencé dans la maison. Des travaux qui devraient me permettre dans les prochains mois de peut-être... éventuellement, faire une chouette annonce et accueillir du matos de brassage assez cool pour faire des recherches en terroirologie biéricole. J'ai réussi à le dire du premier coup, c'est un exploit. Mais chut chut, pas de spoil.
J'ai hâte.
Sinon, j'ai bu une chouette quille à la maison d'une brasserie montpelliéraine. C'est dur à écrire ça, montpelliéraine. Donc de Montpellier, appelée Sacrilège, qui a fait un espèce de TTO géant dans toute l'Europe avec leur bière de vendange. Bon, même si c'était cool, c'est plutôt d'une bouteille que j'avais à la maison dont je voulais te parler, qui a placé le glougloumètre à son maximum, une bière qui a fermenté sur du marc de Syrah, cuvée 2021 du domaine de Morties. Une jolie pépite de 8,4 degrés d'alcool qui passe honteusement trop vite. Bon, et sinon, j'ai rebu un faro. Bon, enfin, cet lambic sucre candy de la brasserie Lindemann, qui a longtemps été ma go-to, et avec qui j'ai converti pas mal de copains et de copines, et ça reste quand même une première marche de choix vers de la craft plus anglo-saxonne. Bon, je dois avouer que cet équilibre entre le sucre et l'acidité marche encore vachement bien, avec un arrière-goût de plaisir coupable quand même. Toi-même, tu sais. Alors aujourd'hui, je te propose une bière trappiste, et non trapéziste comme j'aime à faire la blague. C'est une bière donc fabriquée dans l'abbaye, donc la fameuse abbaye d'Orval, hein, qui est située à Villers devant Orval, en Belgique.
Ça se prononce Villers et pas Villers ?
Joker.
Ok.
Les deux. donc évidemment, cette bière, elle est brassée, comme c'est une bière trappiste, sous le contrôle des moines. En quantité relativement limitée, puisqu'ils font quand même 78 000 hectolitres par an, ce qui fait à peu près 23 millions de bouteilles de 33 centilitres. Hein, donc,
c'est ce qu'on appelle une microbrasserie.
Voilà, une picobrasserie, même pire. Donc cette bière, elle sert donc à financer l'abbaye, bière trappiste toujours, et donc le train de vie des moines, normalement pas un train de vie indécent, et les excédents servent à financer des œuvres de charité. Donc juste pour savoir... rien à voir. Est-ce que tu dis le Wi-Fi ou la Wi-Fi ?
Le Wi-Fi. Je déteste les autres.
Ok. Parce que, justement, dans l'Orval, certains disent une, d'autres un, et ça crée des dissidences. Mais je te rassure tout de suite, j'ai pas la réponse à ça. En tout cas, le goût semble réconcilier tout le monde, enfin, normalement.
Le goût de la bière.
Le goût de la bière, évidemment. Pas le goût du 1 ou du 1, parce que ça
n'a pas de goût,
ni d'odeur. Sinon, si aujourd'hui j'ai choisi cette bière, c'est parce qu'elle utilise une refermentation en bouteille apportée par l'ajout de levure, tiens-toi bien, Brettanomyces.
Oh.
Donc pas d'ajout de sucre, mais on va rajouter du Brettanomyces pour...
refermenter.
Exactement, pour fermenter, parce que ça va fermenter plus de sucre. Donc voilà.
Okay.
Allez, on ouvre ça et on va goûter.
Bon, alors on vient de se servir.
Ouais.
Et donc chacun a servi le verre de l'autre, parce qu'on se respecte pas mal.
Ouais,
enfin, certains se respectent plus que d'autres.
Ouais.
Puisque tu m'as servi un verre de mousse.
Ouais.
Avec
une belle mousse, attention.
Une belle mousse, c'est vrai. Qui est un peu redescendue tout de même maintenant. Elle s'est pas mal aérée. Parce qu'elle est très aérée comme mousse. Hein. C'est une belle mousse. Mmh. Elle mousse bien. Mais quand même très aéré, donc là ça commence à redescendre, je vais pouvoir me resservir de la bière.
Alors que toi tu m'as bien servi, et tu vois la mousse, elle reste bien.
Ouais, effectivement.
En plus les petites bulles remontent du fond.
Ouais, c'est joli. Ouais. Parce que du coup le collier que t'as au niveau de la mousse, il est pas du tout plat. Moi de mon côté ça fait des vagues un peu, avec les bulles qui remontent, c'est joli. On a une jolie bière donc...
Ouais, sucre candy, quoi, donc j'imagine que la couleur...
Orangé, un peu orange foncé, un peu orange pumpkin, citrouille, un peu orange citrouille, je trouve.
Ouais, c'est vrai, il y a un peu de ça, ouais.
On voit pas à travers.
Non.
Dans des jolis verres basclants de 8e anniversaire.
Des très beaux técous.
Exactement.
Enfin, voilà, ceux-là, quoi.
Non, c'est des Vicrilla.
Non, c'est des técous.
Non, c'est écrit dessus, Vicrilla.
Bon, d'accord, ce n'est pas le copie. Mais ils sont quand même très bien.
Oui. N'oublie pas de parler dans ton micro, monsieur Marco.
Oui, c'est vrai, pardon.
Eh oui.
Alors, cette bière.
À l'odeur,
moi je trouve qu'on retrouve, le fameux cheval. Ça sent un peu l'étable.
Ah, c'est ça, cette odeur du coup?
Ouais.
Ok.
Ça et un peu le sucre candy, je trouve. Ça a un petit côté sucré.
Moi, du coup, cette odeur, je l'associais pas mal avec les bières belges, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, les bières belges que j'ai le plus consommées avaient plus ou moins cette odeur-là. Mmh. Et donc, j'associais pas mal cette odeur-là avec les bières belges, donc peut-être juste les bières d'abbaye, je ne sais pas trop.
C'est peut-être peut-être le sucre que tu sens.
Ouais, c'est peut-être le côté un peu sucré, un peu licorne.
Parce que les bières belges ont tendance à être beaucoup plus rondes.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a cette belle odeur-là. Et je viens de goûter, j'ai triché.
Oui, bah, c'est faux.
Et en fait, c'est marrant, je trouve qu'on sent un peu l'amertume des houblons. C'est assez cool. Du coup, là, je trouve que la panoplie qui est développée, c'est hyper riche, quoi. T'as du houblon, t'as le côté bread qui ressort avec cette petite acidité, ce côté sucré, tu vois, mais c'est pas un sucre... c'est le goût du sucre candy. T'as tout ça ou...
Alors, j'ai toujours mal avec cette histoire de sucre candy. Moi je dirais qu'effectivement elle est ronde mais pas tant du tout en fait, c'est à dire que t'as un petit côté rond au départ et t'as un côté un peu plus sec, ouais c'est ça, un peu plus sec sur la langue avec effectivement en arôme ce petit côté écurie peut-être, ce petit côté brette, un petit mélange de tout ça, c'est pas ultra prononcé, mais un petit mélange de tout ça. On a plein de petites bulles dans la bouche, ce qui permet vraiment d'avoir en bouche plein d'odeurs qui te permettent, et plein d'arômes qui te permettent de chatouiller tes papilles et ce qui permet de sentir les odeurs au niveau de ton nez. Là. Et t'as un peu tout ça, du coup.
Bah voilà, c'était la brasserie Orval.
Ouais, elle est pas forte, elle a 6-2, on n'a pas dit.
Ouais, 6-2, c'est vrai. Et alors, y a quand même deux choses à savoir là, sur ce truc-là.
Elle n'est pas fraîche, par contre, je trouve.
Et non, et ça se boit entre 12 et 14 degrés.
D'accord, c'est ce qui est conseillé. C'est écrit, effectivement.
Donc, je pense qu'on est à peu près à la température.
Ouais, exactement. Et c'est peut-être pour ça que je l'apprécie, puisque Orval, on la trouve quand même en magasin. Moi, à mon Super U, je crois qu'il y en a.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'en ai trouvé chez mon caviste.
Ouais.
Et lui, il est planque dans l'arrière-boutique parce que sinon, les gens l'achètent en
sac.
En machin entier. Comment dire,
en palette.
Mais, non, peut-être pas en palette.
Ok.
Mais en caisse entière. Mmh. Et du coup, il est planque un peu parce qu'on n'en trouve pas forcément.
Alors, est-ce que je me trompe? Est-ce que je vois pas ça chez mon caviste?
Peut-être. Il y a une autre, y a d'autres bières qui ressemblent à ça. Mais...
Mais
ça se trouve. Il y a 23 millions de bouteilles par an.
Ouais, oui, c'est ça. C'est donc, que j'ai l'impression qu'elle n'est pas... Et non, j'avais pas... donc tout ça pour dire, surtout, que c'est pas une bière que j'aurais pensé acheter. Parce que peut-être que l'étiquette, j'ai trop vu et que je tends à partir des bières dont je vois trop l'étiquette. Et bah, finalement, j'avais tort puisque la bière est bonne. Hein.
Ouais.
C'est
assez cool. Et si tu as l'occasion d'en acheter et de les laisser vieillir, puisque... Brett et vieillissement, ça va quand même assez bien. Sur l'étiquette, je crois qu'il il donne 5 ans. Mm-hmm. 5 ans de date de préférentielle de consommation, mais tu peux très bien laisser vieillir. Et moi, j'avais bu une Norval un petit peu âgée il y a quelques années. Et ça avait vraiment un autre goût. Ça avait un goût beaucoup plus rond, beaucoup plus liquoreux. Enfin, le truc était vraiment hyper sympa, quoi. Donc, faut pas hésiter à les laisser vieillir, peut-être à garder des millésimes et les laisser vieillir un peu pour profiter un peu plus du goût que ça peut avoir. Mais en tout cas, voilà, celle-ci est jeune. Et je trouve que je pense que je cherchais depuis tout à l'heure, c'était équilibre, quoi. Il y a vraiment cet équilibre entre l'acidité, ouais, le houblon, le sucre. Il y a une belle buvabilité, l'apparence est jolie. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a. On est au compromis de tout, quoi. Le producteur norvégien Brutools vient de dévoiler une variante de son mini-uni, ce fermenteur isobar en acier inoxydable. Cette nouvelle version dénommée mini-uni plus vient ajouter une double paroi destinée à réguler la température. Il manque une solution pour chauffer ce fermenteur pour avoir une solution incroyable. Oh, on me dit dans l'oreillette que ça arriverait pour la fin de l'année. Cette version Unitank Plus, ouais c'est son nom, est disponible en version 30 litres affichée à 547,78€, le modèle 40 litres au prix de 608,78€ et le demi-hecto pour 657,58€. Décidément, Brutools n'en finit pas de sortir des nouveautés et ça n'est pas pour nous déplaire. D'ailleurs, ils viennent de fêter les 5 ans de première expédition d'un Brutools. Alors, gratulerer Meldogen! Ça veut dire joyeux anniversaire norvégien. En tout cas, j'aurais essayé.
Brulande sort du nouveau matos avec sa nouvelle collection Brew Monk. Ses cuves tout en un se voient déclinées en versions B40, B50 et B70 pour respectivement 40, 50 et 70 litres. Connectés en Wi-Fi, ils pourront être pilotés par l'application dédiée. Vous les retrouverez au prix de 499,99€ pour la version 40 litres, 599,99€ pour la version 50 litres et 699,99€ pour la version 70 litres. Les deux plus grosses versions étant déjà en rupture de stock chez Brulande, mais toujours disponibles chez Rolling Beers.
Alors qu'on croyait qu'il ne pouvait plus rien arriver de nouveau sur les levures, Fermentis vient de sortir une gamme de levures All-in-One contenant des levures et des enzymes déjà tout pré-dosées qui affichent toutes des atténuations supérieures à 100%, boostées par du glucoamylase, dont on vous a déjà parlé sur le sujet de la brute à pied.
Au programme, la DW17, une levure produisant une bière sèche et complexe, une résistance jusqu'à 17% d'alcool par volume, sur une plage de température allant de 20 à 32 degrés Celsius. La LD20, une levure produisant une lager sèche avec une plage de température de fermentation allant de 12 à 20 degrés. La DA16, une levure destinée à produire des bières sèches et savoureuses comme la Brut IPA, une résistance jusqu'à 16% d'alcool par volume sur une plage de température allant de 20 à 32 degrés Celsius. Et puis enfin, la HA18, une levure capable d'encaisser jusqu'à 18% d'alcool par volume sur des plages de fermentation allant de 25 à 35 degrés Celsius. Pour le taux d'ensemencement, il faudra prévoir entre 1 g à 1,6 g par litre, sauf pour la lager, pour laquelle il faudra plutôt tabler sur 1,6 à 2,4 g par litre. Oh et bonne nouvelle, les versions Brassam sont déjà disponibles en version 25 g au prix oscillant entre 8 à 10 euros. Si les 4 fantastiques étaient des levures, ce serait probablement celle-là.
Question, on cherche un élément vivant, indice chez vous en bas de votre écran. Je suis top chrono. Micro-organisme unicellulaire, je suis de la famille des champignons. Non pas ceux de The Last of Us, heureusement, mais je suis dans le même branchement que les morilles et les truffes. De différentes formes, ma famille n'est pas toujours bénéfique, mais moi, en particulier, je suis l'ami du brasseur. De l'ordre Saccharomyces, dans de bonnes conditions hygrométriques et calorimétriques, j'aide les brasseurs à transformer son mou en bière en mangeant les sucres disponibles et relâchant du CO2 et de l'éthanol. Je suis...
La levure !
Oui, je dis oui ! Tu l'as deviné, on va parler de levure. Cet ingrédient qui est responsable de la fermentation de la bière, fermentation qui, je te le rappelle autrefois, était magique. Et on peut déjà faire un big up à Louis Pasteur qui, grâce à sa publication « Études sur la bière » en 1876, a démystifié ça. Mais pour commencer, je vais te faire retourner sur les bancs du collège et plus précisément en SVT. Je ne sais pas si tu te rappelles de tes cours où on t'avait parlé de classification classique ou linéenne. Elle propose de classer les espèces du vivant. La hiérarchie contient 9 niveaux. Du plus général au plus spécifique, on a la vie, le domaine, le règne, la division, la classe, l'ordre, la famille, le genre, l'espèce. Est-ce que tu suis ?
Presque.
Pour les levures dont je vais te parler, elles font partie du règne, donc le tronc commun, fongi, les champignons. La division, la classe, l'ordre seront les mêmes. Seules la famille et le genre, les deux rangs les plus spécifiques donc, vont différer pour l'une des deux levures dont je vais te parler. En résumé, il existe 3 levures pour le brasseur, toutes du même ordre, le tronc commun, l'ordre Saccharomyces. Plus spécifiquement, deux levures sont de la même famille et genre, les Saccharomyces cerevisiae et les Saccharomyces pastorianus, et une autre dans une autre famille et un autre genre, la Dechera bruxellensis ou Brettanomyces bruxellensis, bien connue des amateurs de lambic, entre autres, et disponible dans les bières Orval. Petit disclaimer, parce qu'on aime bien ça sur le barboteur, dans mes nombreuses lectures, j'ai vu plusieurs auteurs qui n'étaient pas toujours d'accord. Pour certains, Pastorianus et Carlsbergensis ont des différences, d'autres mettent aussi les Saccharomyces uvarum en synonyme de la Carlsbergensis, alors que les températures de fermentation semblent différer. Et en parlant de température, mes lectures ne m'ont pas donné de plage de température qui font consensus, donc dans ce qui va suivre Marco, j'ai fait des choix. Première levure dont je vais te parler, les Saccharomyces cerevisiae. Bien connues des brassames, ce sont les levures utilisées pour faire des ales, des bières de fermentation haute. Quand on parle de fermentation haute, on parle de température de fermentation. Les levures des ales fermentent entre 18 et 25 degrés Celsius pour les plus communes. Et toi-même, tu sais qu'il y en a d'autres plus costauds, par exemple la Quack, qui a été popularisée par Lars Marius Garsol et qui fermente entre 20 et 40 degrés. Durant la fermentation, la levure remonte à la surface. Cela s'explique à cause de sa capacité à piéger les bulles de CO2. Ce phénomène est lié aux propriétés de flocculation de la levure. Et tu ne me demandes pas ce que c'est, mais je vais quand même te le dire. La flocculation, c'est le processus par lequel les cellules de levure s'agglutinent et forment des agrégats qui sédimentent ou flottent dans le milieu. Donc dans notre moule en l'occurrence. La deuxième levure dont je vais te parler, les Saccharomyces pastorianus ou Carlsbergensis. Ces Saccharomyces sont celles qui produisent les bières de type lager, les bières de fermentation basse. Ce sont des levures qui fermentent entre 7 et 12 degrés Celsius. De par la basse température de fermentation, elles prennent plus de temps à fermenter. Au contraire des cerevisiae, durant la fermentation, la levure redescend. Pourquoi deux noms ? Je pense qu'on le devine assez vite. Pastorianus, car c'est Louis Pasteur qui a découvert ces levures, et Carlsbergensis, car c'est la brasserie Carlsberg qui fut la première à isoler et industrialiser cette levure. Cependant, Carlsbergensis n'est plus une nomination utilisée. Et la troisième levure, les Dechera bruxellensis, ou Brettanomyces bruxellensis. Les Dechera bruxellensis, plus connus des brasseurs sous le nom de Brettanomyces ou son diminutif Brett, sont donc des levures qui ne sont pas de la même famille que les deux précédentes levures. En effet, d'un côté, on a des Saccharomycetaceae, et ici la famille des Picaceae. Issue historiquement de la région de Bruxelles, d'où leur nom, elle est la star des levures qui viennent ensemencer les bières dites de fermentation spontanée.
D'ailleurs, petit aparté sur le nom Dechera, puisqu'en 1964, le nom Dechera est donné au genre en l'honneur de la mycologue néerlandaise Nelly Margaretha Stelling Dekker, qui était docteur en sciences de l'université d'Utrecht, pour son travail sur la taxonomie des levures, donc Dekker, Dechera. Voilà, c'est un hommage à cette dame.
Eh bien, merci pour cette information. Et historiquement, en Belgique, la bière était brassée au printemps et en automne, où les températures sont plus clémentes. Une fois le moût fini de bouillir, il était placé dans de grands bacs peu profonds, la nuit, afin d'être refroidi. Sous les toits des brasseries, fenêtres ouvertes, le moût était ensemencé naturellement. On dénombre une vingtaine de souches, levures et bactéries confondues qui viennent alimenter le moût. Cela donne de fait une bière plus acide, avec un pH d'environ 3,5. Et d'après Nicolas Imbrex, dans son livre « Technologie brassicole », la brette donne des arômes de cheval ou d'écurie, qu'on a ressenti un peu dans les Orval. Décidément, cette bière colle bien au sujet.
C'est incroyable ça.
Ouais, incroyable. Mais comment ça marche ? Maintenant qu'on a vu ces trois levures, je vais te dire quelles importances elles ont pour ta bière. Pour commencer, ta levure se comporte différemment selon qu'elle est en présence d'oxygène ou pas. On nomme ces états aérobie et anaérobie. Dans un environnement aérobique, c'est quand il y a de l'air, on dit que la levure respire le glucose, le sucre présent dans ton moût. Elle rejette du CO2 et de l'eau. Au contraire, dans un environnement anaérobique, sans air donc, elle produit toujours du CO2, mais cette fois-ci avec de l'éthanol. Et c'est cet état qu'on va rechercher. Et ça s'appelle la fermentation. Sache cependant que l'état aérobique n'est pas inutile, au contraire, c'est à cet état que les levures vont être capables de se multiplier. On veut que la population triple ou quintuple. Il est donc nécessaire d'aérer le moût pour que les cellules puissent se multiplier. Et il faut savoir que même en présence d'oxygène, si le liquide dans lequel sont les levures est fortement sucré, de 10-12 à 35 degrés plateau, la levure va quand même fermenter par ce qu'on appelle l'effet Crabtree. Et j'ouvre une parenthèse. Certains recommandent de faire un starter avant de mettre tes levures dans ton fermenteur. Une des techniques d'ailleurs est de prendre un peu de ton moût et d'y mettre tes levures sèches afin qu'elles puissent commencer à fermenter. En général, tu prends un Erlenmeyer, de ton moût, ton sachet de levure et tu recouvres le bec par de l'aluminium pour que ton moût ne se contamine pas mais qu'il puisse quand même respirer. Évidemment, bien tout nettoyer et décontaminer avant et bien vérifier la température de ton moût pour tes levures. La difficulté vient que le starter doit être fait un ou deux jours avant ton brassage.
D'ailleurs, dans le doute, on peut se référer aux préconisations disponibles sur le sachet de levure ou sur le site du levurier directement. De mon côté, j'aime beaucoup les levures en ensemencement direct. Ça m'a franchi une étape de réhydratation, mais surtout, ça réduit le risque de contamination. Et toi, t'en as déjà fait des starters ?
Eh ben, en tant que bon brassame que je suis, je n'en ai jamais fait. Je ne réhydrate même pas mes levures dans l'eau avant de les mettre dans mon fermenteur. Les levuriers disent que ce n'est pas forcément nécessaire. De mon expérience, l'air présent dans le haut du fermenteur est suffisant pour la multiplication des levures. Pour mon brassin de presque 30 litres, j'ai mis deux paquets de saison car il était écrit dessus un paquet pour max 23 litres. Cependant, je ne suis pas à l'abri de tester un de ces quatre, le starter, pour voir s'il y a une différence. C'était la fin de cette parenthèse. Mais alors, me demanderas-tu, pourquoi on a plusieurs types de levures dans le commerce alors qu'on n'a que trois espèces ? Et je vais reprendre l'analogie de Nicolas Imbrex qui nous dit « Nous faisons partie de la même espèce Homo sapiens. Cependant, nous développons des caractéristiques spécifiques. Certains sont plutôt littéraires, mathématiciens, avocats, menuisiers, voire même, comble de l'horreur, brasseurs. Et il en est de même pour les levures. » Mais je ne vais pas te laisser sur cette analogie. Chez Fermentis, et probablement chez d'autres levuriers, ça fait plusieurs années qu'ils étudient les profils aromatiques de leurs levures. Ils disent « Nous savons que la levure a un impact crucial sur le profil aromatique de ta bière. Cela touche une vaste gamme de caractéristiques comme les notes fruitées ou florales, le caractère phénolique, donc qui peut être décrit comme épicé, poivré ou fumé, le corps de la bière et bien plus encore. » Mais cela va plus loin. Eux aussi, ils font une analogie avec les humains qui se comportent différemment selon l'environnement dans lequel ils sont placés. Et il en est de même avec la levure. Personnalité et caractère changent en fonction du moût qu'elles rencontrent, du type de céréales, de la température. Les levures vont apporter leurs propres arômes ou renforcer d'autres déjà présents, ceux des céréales par exemple. Et tu me vois arriver avec mes gros sabots, mais non. Je ne vais pas te faire un listing des arômes possibles et inimaginables. Je voulais juste te donner une idée de l'immensité de choses que tu peux faire avec les mêmes ingrédients, juste en faisant varier quelques paramètres. Attention cependant, il faut prendre soin de sa levure. Car une mauvaise température, pas assez de levure dans ton moût, des levures trop vieilles ou mal conservées, beaucoup d'éléments peuvent stresser ta levure et amener de faux goûts à ta bière. Voici à mon avis les faux goûts les plus communs. L'acétaldéhyde est un faux goût qui se caractérise par l'odeur de pomme verte ou de citrouille fraîchement coupée. La présence de cet arôme indique que la bière est encore trop jeune et nécessite plus de temps pour arriver à maturité. L'acétaldéhyde n'a pas eu le temps de se convertir en alcool. Cela peut aussi venir d'un stress de ta levure, un sous-ensemencement par exemple, ou une température de fermentation inadéquate. Les alcools de fusel, c'est un faux goût qui rappelle une forte odeur d'alcool ressentie dans une bière. Et il peut avoir deux causes. La plus courante est due à une température de fermentation trop haute. Si la température de fermentation est trop élevée, les levures peuvent produire trop d'alcool de fusel. Cela donne une sensation de chaleur inadéquate en bouche et dans la gorge. La deuxième cause de production d'alcool de fusel est due à un ensemencement trop faible qui provoque un stress de la levure. Le goût de levure, cela peut aussi être un faux goût, se produit le plus souvent pour les bières jeunes, dites bières vertes. La levure n'a pas eu suffisamment de temps pour sédimenter. Avec la refermentation en bouteille et la maturation, le dépôt va s'accumuler au fond. Attention donc, lors du service, à laisser le fond dans la bouteille pour éviter ce faux goût. Et ceci est un petit clin d'œil à tous les serveurs et toutes les serveuses de cavabières du genre VNB, vin d'orge, ou encore cervoiserie,
liste non exhaustive et non incriminante,
qui vont te remuer d'un geste bien technique le fond de ta bouteille et te le verser dans ton verre. Ton verre qui contenait une bière qui n'était pas hazy et qui le deviendra, mais surtout qui te donnera ce goût de levure pas agréable du tout. Et quand ces bougres insisteront sur le fait que c'est comme ça qu'elle est meilleure et que sinon tu laisses de la bière au fond de ta bouteille ou n'importe quelle autre ineptie, vous pourrez leur faire écouter ce podcast et peut-être changeront-ils d'avis. Et nous, ça nous fera des auditeurs en plus, alors n'hésitez pas. Enfin, pour faire passer ce petit coup de gueule, un dernier faux goût et c'est fini. Tu pourras retrouver les autres sur les différents sites web qui en parlent. Ce dernier faux goût est l'odeur de soufre. S'il ne te fait pas penser directement au soufre, tu les détecteras par des notes qui font penser à une allumette qui vient de s'enflammer, à des œufs pourris ou, dans le pire des cas, à des odeurs d'égout. Ces défauts sont souvent liés à des problèmes de fermentation, soit à cause d'une maturation trop courte qui empêche les flaveurs soufrées produites normalement durant la fermentation de complètement s'évaporer, soit en raison de la condition ou la santé de la levure qui, par exemple, produira plus de sulfure d'hydrogène qu'à la normale, ou si les levures sont laissées trop longtemps en présence de la bière après que la fermentation soit terminée. La mort des levures, par autolyse ou autodestruction si tu préfères, relâche des saveurs levurées ayant un caractère soufré. Pour résumer sur les faux goûts, pour les éviter, il faut toujours vérifier la santé de sa levure, donc l'avoir bien conservée et qu'elle ne soit pas trop vieille. Il ne faut ni sous-doser ni surdoser la quantité de levure qu'on met dans le fermenteur et il faut contrôler sa température de fermentation. Voilà, c'est terminé pour cet aperçu sur les levures. J'ai voulu faire de ce sujet un premier vernis sur cet ingrédient. Il y a peut-être eu des éléments un peu complexes ou un peu confus. N'hésitez pas à réécouter l'épisode ou à jeter un œil aux sources sur lesquelles je me suis appuyé pour l'écriture. Le document sera disponible sur notre site web lebaboteur.beer. C'est un sujet assez complexe et on aura de toute façon l'occasion de le creuser un peu plus dans un prochain épisode car quelque chose me dit qu'il y a un amateur de fermentation spontanée et mixte autour de cette table et qu'il aura une ou deux choses à nous raconter.
Eh bien, merci mon petit Nicolas pour ce petit sujet riche en levure.
Je m'appelle Nico.
Ah, c'est vrai, pardon. Merci Nico pour ce sujet riche en levure. Et merde. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est quand même un sujet bien complexe quand même, cette histoire de levure. D'ailleurs, je crois qu'on a rapidement parlé de starter et de réhydratation. Est-ce que tu saurais nous expliquer la différence ? Est-ce que tu saurais m'expliquer à moi la différence entre les deux?
Ouais, en effet. La réhydratation, ça consiste surtout à remettre des levures dans un liquide non sucré à une température adéquate afin de les préparer à affronter un moût sucré. Ok. Pour le starter, ou un pied de cuve en français, le but, comme je l'ai dit dans le sujet, c'est de multiplier la population de levures saines. Pour ça, on va d'abord réhydrater la levure sèche ou juste prendre sa levure liquide et la mettre dans un moût sucré qu'on aura mis préalablement dans un Erlenmeyer à température de fermentation. La préparation, elle doit être remuée à la main ou avec un remueur magnétique par exemple et laissée à fermenter pendant un ou deux jours, recouverte d'un papier alu ou d'un bouchon barboteur si l'Erlenmeyer le permet. Encore une fois, il en va de même avec ce matériel de labo, il faut que tout soit bien propre et stérile.
Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à le répéter assez souvent, hein, mais le nettoyage et la stérilisation, c'est hyper important. Bon, sinon, on a parlé d'oxygénation. Je crois que c'est une étape essentielle, mais j'avoue que cette étape, elle est encore un peu hasardeuse pour moi. Je me contente de placer aujourd'hui le moût refroidi en cascade dans le fermenteur ouvert, et ça semble être efficace. Et toi aussi, il me semble, parce que tu évoquais tout à l'heure le fait de l'air restant dans le fermenteur permettait ou suffisait pour multiplier les levures. Ouais. Mais il existe aussi des dispositifs qui permettent d'oxygéner le moût, soit via, tiens-toi bien, une pierre d'oxygénation placée dans le fermenteur, ou alors via un diffuseur d'oxygène sur la tuyauterie, donc c'est vraiment inline, avant de passer dans l'inox. Bon, dans tous les cas, ça demande aussi une bouteille d'oxygène, donc encore un truc. Et toi, donc, pour oxygéner, pour parler quand même ?
Bah non, mais tu sais, en tant que bon, comme tu le sais, en bon brassame que je suis, j'ai rien utilisé. Et comme tu l'as dit, le haut de mon fermenteur pour moi suffit. Et pour l'instant, tout va bien. Oh, et je l'aborde pas dans le sujet, mais il me semble que le pH du moût a une incidence sur les levures. Tu saurais nous en dire plus ?
Absolument. Alors, en règle générale, on sait que les levures, elles ont une plage d'utilisation allant de 4 à 6 de pH.
Okay.
Mais elles sont capables de travailler sur une plage bien plus grande. On peut insister sur le bien.
La cano.
Quoi ?
La cano.
Une belle plage, oui. Bon, c'est pas la plus belle. Dans tous les cas, une densité importante, ou bien encore un ajout de matière, comme par exemple du marc de raisin, ou encore une acidité importante, donc un pH bas, ça veut dire qu'il va falloir ensemencer en quantité plus importante et rajouter éventuellement des nutriments afin que la fête soit plus folle dans tes levures.
Et c'est là qu'on va chez Rolling Beer pour acheter des petits all-in-one de chez Fermentis.
C'est ça, c'est l'idée. C'est d'ailleurs du tout prêt. parce qu'en parlant de levurier, justement, tu t'as parlé de Fermentis, il y a souvent deux termes qu'on retrouve fréquemment au-delà de la tolérance de l'alcool, je l'ai évoqué tout à l'heure, et des plages de température de fermentation, c'est les notions de flocculation et d'atténuation.
Ouais, derrière ces deux termes se cache une idée de ce à quoi va ressembler ta bière en termes de rendu visuel, mais également de goût. La flocculation donne un indice de capacité de la levure à agglomérer la matière, tandis que l'atténuation va te renseigner sur sa capacité à transformer les sucres en alcool et en CO2. Donc, une flocculation basse favorisera une bière trouble, là où une flocculation haute aidera à avoir une bière bien limpide. Pour l'atténuation, une basse te donnera une bière plus ronde, avec des sucres résiduels, là où une haute dégradera plus de sucre et donc nous conduira à une bière plus sèche et plus forte en alcool.
Super. Ben, merci Nico pour toutes ces précisions. Je crois qu'on a maintenant un bon aperçu de l'importance de ces levures, comme si on avait un doute.
C'était le troisième épisode de la saison 3 du podcast Le Barboteur, le podcast qui ne brasse pas que du vent.
Quel que soit votre budget, quel que soit votre niveau de connaissance, quelle que soit la place que vous avez, on vous encourage à brasser et à rester curieux sur les innombrables bières concoctées par vos petites brasseries locales.
Vous pouvez nous retrouver sur Discord où on sera très content d'échanger avec vous sur la bière et l'univers du brassam, Instagram, Mastodon ou encore sur lebaboteur.beer.
Si vous voulez nous aider, vous pouvez nous payer une bière sur Ko-fi ou nous mettre un commentaire et des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ou encore, partagez nos épisodes avec vos potes beergeek/brassam.
C'était Marco et Nico, et on vous donne rendez-vous le mois prochain, et peut-être même avant.
Bonjour.
Tu te fous de la gueule du monde ou quoi? T'éteins.
Mais quoi?
T'éteins.
Ça va pas prendre feu, ça va brûler à payer.
Mais magne-toi.
Bah ça craint rien.
Magne-toi. Non mais ça va pas te brasser dans ta chambre.
Et alors c'est bon, c'est qu'une casserole.
Non mais t'ébarges toi. Mais Marco, mais t'es pas net.
Bah j'essaye un truc.
Non, t'arrêtes ça Marco. Mais c'est quoi que t'as mis par terre?
Bah il y a des céréales, c'est pour faire du mou.
Putain mais c'est horrible, mais c'est tout trempé dans ta chambre, il y a de la buée partout. Mais t'es pas net non?
Mais si, je suis très net.
Et ton brûleur là, t'as fait fondre toute la moquette.
Bah c'est carrément pas fondu.
Mais qu'est-ce que t'as mis là-dedans?
Du malt d'orge.
Du quoi?
Du malt d'orge, le malt d'orge c'est pour faire la bière.
Mais t'es barge. Comment tu vas dormir là-dedans?
Quoi?
T'as vu ta chambre comme elle est? Elle est toute trempée avec cette vapeur. Mais t'as fumé ou quoi?
Non.
J'ai l'impression que t'as fumé mon gars.
J'ai rien pris.
Ouais t'es un peu à l'ouest hein.
Essaye de faire un truc.
Non mais regarde la moquette, elle est toute... Non mais il va inonder la baraque. Tout ton linge il est trempé.
Bah je sais bien.
Et comment tu vas aller au travail demain?
Mais
tu vois dans quel état t'es, tu te lèveras jamais. Demain matin, à quelle heure tu commences?
Meilleur que ce matin.
Non mais t'arrêtes ça et t'éponges tout.
Ouais, je finis ça et...
Non, t'es pas net, tu vois pas? T'es complètement à l'ouest, Marco, qu'est-ce que t'as pris?
Mais j'ai rien pris!
Mais si, t'as pris, non!
Mais j'ai le droit d'essayer des choses dans ma chambre!
T'as le droit de quoi?
Des choses dans ma chambre!
Non, pas dans ta chambre, parce que c'est ma maison!
Et alors, mais je fais attention!
Et en plus, avec le bordel qu'il y a, tu vas tout inonder un jour, Marco!
Mais je prends des précautions!
Non, bah tu vas dehors si tu veux essayer des choses.
D'ailleurs, il fait froid!
Eh ben, je m'en fous, tu vas t'agresser l'été.
Non, l'été, il fait chaud, et c'est chiant pour la fermentation!